France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question-réponse sur la vaccination contre le papillomavirus que l'exécutif souhaite élargir en la proposant en milieu scolaire. Car désormais, les spécialistes sont formels. Il faut vacciner les filles et les garçons le plus largement possible pour tenter d'éviter la transmission de ce virus à l'origine de plusieurs milliers de cas de cancer chaque année en France. Cancer du col de l'utérus, mais pas seulement, cancer de la sphère ORL également. On va voir tout cela dans le détail. Mardi, Emmanuel Macron s'est rendu dans un collège de Jarnac, en Charente, où il a plaidé pour une généralisation de la vaccination. Le chef de l'État a annoncé que celle-ci serait possible au collège à partir de la rentrée prochaine pour les élèves de 5e. Il faut dire que la France est en retard par rapport à d'autres pays pour ce qui est de la couverture vaccinale. Fin 2021, 45% des filles et 6% les garçons âgés de 15 ans avaient reçu une dose de vaccin. C'est moins que chez certains de nos voisins. Alors pourquoi un tel retard ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités qui sont là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le vaccin, sur le papillomavirus, sur les cancers qu'il peut provoquer. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour vous répondre. Trois invités, trois médecins en direct de Marseille. Docteur Julia Maruani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue donc à Marseille, vice-présidente de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale. Vous faites de la formation, notamment à destination des infirmières. En direct des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, professeur François Dabisse, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Stratégie nationale en santé sexuelle. Voilà pour notre Tour de France. Et ici, à mes côtés en studio, un spécialiste du cancer. Bonsoir, professeur Éric Solari.
Bonsoir.
Vous faites partie de la Fondation ARC, l'association pour la recherche sur le cancer, dont vous avez présidé le conseil scientifique. Je vous le répète, nos standardistes sont prêts à décrocher. Alors surtout, appelez-nous.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, Muriel nous appelle. Bonsoir Muriel, vous êtes une maman qui se pose des questions.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir appelé.
Je me pose beaucoup de questions au sujet du vaccin contre le papillomavirus et notamment les effets secondaires que ça peut avoir. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Je ne suis pas du tout contre la vaccination d'une manière générale. Mais c'est vrai que j'ai eu des réticences à faire vacciner ma fille à propos des effets secondaires que j'ai pu lire, du rapport bénéfice-risque qui faisait l'objet de contestations au sein de la communauté médicale et scientifique, comme quoi si les garçons ne se faisaient pas du tout vacciner, ce qui était le cas jusqu'à présent, et là on a entendu qu'il n'y avait que 6% des garçons qui étaient vaccinés, ça ne servait pas à grand-chose de faire vacciner les filles aussi. Et notamment aussi que certains pays comme le Japon ou le Danemark, qui recommandaient pendant très longtemps la vaccination, ne la recommandent plus du tout. Sauf que bon, le Japon revient un peu en arrière, je l'ai lu récemment. Mais voilà, donc c'est beaucoup de questions que je me pose sur cette vaccination, qui fait qu'à 17 ans, notre fille n'est toujours pas vaccinée, qu'on se pose toujours la question si elle doit ou pas le faire, parce qu'en même temps, on aimerait bien sûr la protéger contre les cancers potentiels qu'elle pourrait avoir. Et voilà, et en sachant aussi que ce vaccin ne protège que contre quelques papillomavirus et qu'en vérité, il y en a une centaine. Et donc, savoir comment c'est possible de protéger quand même si la vaccination n'est valable que pour quelques papillomavirus.
Merci Muriel, vous avez eu raison d'appeler le standard de France Inter. Surtout que vous avez plein de questions et ce soir on va les prendre, allez, les unes après les autres. Peut-être, docteur Julia Maruani, vous qui êtes gynécologue au contact direct des mamans et des jeunes filles, est-ce que ce genre d'interrogation, comme pose toutes ces questions que pose Muriel, vous y êtes confrontée vous aussi et vous vous reconnaissez dans ce que vous entendez ?
Alors oui, j'aurais dit oui et non, c'est-à-dire que bien sûr il y a toujours des interrogations. Par contre, ce que Muriel nous évoquait, c'est quand même des rapports assez anciens. Depuis le Haut Conseil pour la vaccination, hein, c'est pas exact, j'ai un trou de mémoire sur le nom exact du centre qui gère ça, a émis vraiment très récemment des recommandations disant que justement le vaccin était très sûr, qu'il y avait très peu d'effets indésirables graves, et donc il y a pas du tout de remise en question de la vaccination par des rapports récents. Donc je ne sais pas du tout à quoi faire fait allusion, madame. Alors, je vais répondre déjà en ce qui concerne les papillomavirus. Vous avez raison, il y a beaucoup de papillomavirus, mais il y en a qu'une vingtaine qui sont cancérigènes. Et donc, dans le vaccin non-avalant, il y a 9 papillomavirus qui sont mis à l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est les 9 qui ont été choisis. Alors, il y en a qui sont surtout responsables de verrues, mais les 7 autres, c'est vraiment des virus cancérigènes, ont été choisis parce que ce sont les plus fréquents, impliqués dans 90% des cancers. Donc, d'accord, on ne couvre pas la totalité des papillomavirus, mais l'efficacité en termes de diminution des lésions précancéreuses et diminution des cancers est à peu près au-delà pour certains de 90%. Donc c'est pas du tout un argument négatif sur le nombre de papillomavirus à l'intérieur. C'est vrai qu'on ne peut pas afficher une efficacité de 100% pour cette raison-là, mais on peut quand même voir un gros bénéfice sur une efficacité à 90%.
Et qu'est-ce que vous dites à Muriel concernant sa fille qui a 17 ans? Il a encore le temps de le faire?
Je trouve que non, c'est assez dommage. C'est-à-dire que les bénéfices de la vaccination va baisser à partir du moment où les patientes auront démarré une sexualité. C'est-à-dire dès qu'on est en contact avec les papillomavirus, le vaccin va être moins efficace. Il est vraiment efficace quand on est avant toute contamination par l'HPV. Quand on affiche des taux de 90%, c'est dans cette tranche-là. Donc c'est pour ça qu'on préconise plutôt avant 14 ans. Alors après, s'il n'y a pas eu de sexualité, ben il va rester efficace aussi à 90%. Mais c'est dommage d'attendre. Par rapport à ça, hein, il faut, disons que si je peux résumer, c'est que le vaccin aujourd'hui, l'efficacité, il y a tous les pays qui ont fait des études dessus ont pu en prouver l'efficacité au niveau pré-cancer et cancer, que ce soit sur le col de l'utérus ou sur les autres localisations. Et avec, pareil, des rapports de pharmacovigilance de plusieurs pays du monde qui montrent une absence d'effets indésirables graves, notamment de maladies déménialisantes comme la SEP. Hein, donc tout ça, on sait qu'il n'y a pas d'augmentation de risque. Le risque principal, qui est un risque bénin, c'est d'avoir des douleurs au niveau du bras, de l'injection, et puis une légère fatigue dans les 48 heures qui suivent le vaccin.
Alors, on va voir avec vous, professeur Éric Solari, vous qui êtes un spécialiste du cancer. Muriel disait, il y a des pays qui s'interrogent. Est-ce que c'est vrai? Il y a des pays qui s'interrogent ou est-ce que, au contraire, aujourd'hui, on sait que la plus large couverture protège?
Alors, j'ai pas connaissance qu'il y a des pays qui s'interrogent. Ce qui est certain, c'est qu'en revanche, il y a des pays qui ont pris beaucoup d'avance. Le vaccin, il est sur le marché depuis 2007. Il y a des pays qui ont des taux de couverture à 80, voire 90%, des pays qui sont proches des nôtres, la Belgique flamande, l'Islande, la Norvège, la Suède, l'Espagne, tout ça ont des taux de couverture importants. L'Australie, la Nouvelle-Zélande ont des taux extrêmement importants, avec des résultats impressionnants en termes de diminution même de la contamination par le virus, sans parler d'effets sur le cancer lui-même, mais déjà ça protège, parce qu'en fait la vaccination elle protège non seulement du cancer, mais aussi de toute une série de maladies bénignes mais invalidante, qui touche la sphère urogénitale.
Est-ce qu'on peut expliquer quels sont les cancers concernés par les papillomavirus? On a dit le cancer du col de l'utérus. Il y en a d'autres?
Oui, il y en a d'autres. Si on prend la situation de la France, par exemple, en termes de chiffres, c'est à peu près 6 000 cancers induits par les papillomavirus par an, 3 000 cancers du col utérin, mais aussi 3 000 autres cancers, dont une fraction importante de cancers ORL, et des cancers qui touchent cette fois-ci l'homme et la femme, et avec une fraction plus importante chez l'homme que chez la femme, et une augmentation très importante en fréquence de ces cancers HPV induits au niveau de la sphère ORL au cours du temps, qui justifie, entre autres raisons, la vaccination des garçons.
Professeur François Dabis, vous qui êtes président de la stratégie nationale en santé sexuelle, que pensez-vous de l'annonce qui a été faite mardi par Emmanuel Macron d'aller vacciner en milieu scolaire pour généraliser cette vaccination?
Écoutez, elle me convient tout à fait parce que effectivement, on a un besoin urgent d'augmenter la proportion des classes d'âge de 11 à 14 ans qu'il faut vacciner. Et donc, cette initiative-là me semble tout à fait adaptée et va répondre à cette question. Et pour un petit peu amplifier la réponse à votre auditrice qui avait quelques hésitations, on pourrait la qualifier d'hésitante en matière de vaccin, eh bien, je pense que plus il y aura d'informations qui seront données à la fois aux parents, mais aussi aux enfants, mieux ça sera, et plus on aura de circuits de vaccination différents, plus on augmentera rapidement cette proportion de jeunes enfants à vacciner. Donc moi, je suis extrêmement favorable, et d'un point de vue de la stratégie nationale de santé sexuelle, nous adhérons totalement à cette mesure.
Alors, on reviendra évidemment sur la vaccination en milieu scolaire, mais vous avez un confrère qui a téléphoné au standard de France Inter. François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes gynécologue.
Donc moi, je suis gynécologue, effectivement. Tout a été dit avant moi, quasiment.
Non, pas tout. Ouh là là, il y a encore beaucoup de choses à dire.
Deux petites choses. C'est que l'Australie annonçait, il y a déjà 5 ans, avoir vacciné 80% des garçons et filles. Et donc, ils ont une couverture parfaite avec maintenant une annonce qui vise l'éradication du papillomavirus. Et puis, le problème que je rencontre de temps en temps, parce que moi, gynéco, je les vois pas, les petites filles. Évidemment, c'est pas ma clientèle. Mais quand j'en parle aux mères, ce que je regrette, c'est que régulièrement, j'ai des mères qui disent « Ah oui, mais mon médecin n'est pas pour ». Voilà. Et ça, c'est quand même incompréhensible pour moi.
Et merci François de nous avoir appelé et d'avoir témoigné. Mais on en revient toujours à la question de la vaccination qui pose problème en France, professeur Solari. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Et d'ailleurs, tiens, on va ouvrir une parenthèse si possible et expliquer ce vaccin contre le papillomavirus, comment il fonctionne. Parce qu'on a eu le Covid, on a eu toutes les questions possibles sur l'ARN messager. Là, de quelle sorte de vaccin s'agit-il?
Alors là, on injecte des fragments du virus pour stimuler le système immunitaire.
De manière classique.
De manière extrêmement classique, oui. Voilà, puisque la question de Muriel tout à l'heure était celle de l'innocuité. Je crois qu'on est à plus de 500 millions de doses injectées dans le monde de ce vaccin depuis 15 ans maintenant, puisque ça a commencé en 2007, avec des rapports qui montrent une excellente tolérance. On a des effets immédiats de type petite réaction vaccinale, c'est-à-dire un petit mouvement de fièvre, etc. C'est normal, c'est le système immunitaire qui se met en route, qui est stimulé par la vaccination. Rien d'anormal à ça, mais derrière, il n'y a pas de complications importantes. Et la gravité des maladies contre lesquelles ce vaccin protège fait que la balance risque-bénéfice est considérable.
Julia Mariani, votre confrère disait il y a des familles qui rapportent que leur médecin serait pas favorable. Vous l'entendez ça vous aussi?
Oui, malheureusement, ça nous arrive de temps en temps. C'est quand même pas la majorité, mais c'est dommage que ça arrive encore. Je pense qu'on a encore et encore des efforts de formation. Si les médecins sont pas assez informés, justement, sur toutes les études récentes qui ont été rassurantes et qui montrent l'efficacité du vaccin, bah, peut-être qu'ils sont restés sur les premières années où on avait moins de recul. Donc, nous, on fait le maximum de formation à viser aussi des médecins pour essayer de ne plus rencontrer ce type de situation.
Et François Dabis, le fait que ça se fasse en milieu scolaire, ça pourrait être une façon de rassurer les familles?
Je ne sais pas si ça rassurera, mais en tout cas, ça prodiguera de l'information supplémentaire dans un endroit particulièrement pertinent. Et à nouveau, je peux comprendre qu'une partie de la population soit hésitante. On a ce sujet en France pour maintenant beaucoup de vaccinations. En fait, l'hésitation vaccinale, c'est un petit peu une caractéristique française qui est un petit peu plus forte en France que dans d'autres pays européens ou dans d'autres parties du monde. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que parmi les gens hésitants, il y en a très peu qui sont vraiment réfractaires. Et si nous expliquons et nous rajoutons des informations scientifiquement documentées, on l'a vu pendant la Covid, eh bien le niveau d'hésitation baisse considérablement. Donc oui, en milieu scolaire, on pourra rajouter de l'information qui sera très utile pour être convaincant.
On repart au standard de France Inter. Retrouvez Julie. Bonsoir Julie.
Oui, bonsoir.
Vous souhaitiez témoigner parce que vous avez le...
Alors moi j'ai 38 ans, on m'a détecté un papillomavirus il y a à peine un mois, donc on m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète parce que c'était un papillomavirus ni 16 ni 18, mais un des autres, et du coup effectivement donc là j'ai eu un rendez-vous, on m'a confirmé avec une biopsie, une colposcopie, qu'effectivement il y avait des lésions de bas grade qui étaient du coup peu risquées au niveau de la vie courante et que ça serait à suivre, mais qu'il n'y avait pas forcément de risque de cancer. Donc déjà, je voulais avoir une confirmation par rapport à ça. Et j'avais une deuxième question par rapport au vaccin, par rapport aux enfants, puisque moi, j'ai un garçon qui a 3 ans aujourd'hui, donc la question se pose pas pour tout de suite. Toutefois, en parlant avec des amis, on m'a dit « oui, mais il y a un risque d'infertilité ». Alors, je voulais savoir si c'était effectivement vrai par rapport au vaccin.
Merci Julie pour cette double question. Docteur Mariani, peut-être d'abord sur Julie elle-même, sur le fait d'avoir contracté ce virus. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs, encore une fois.
Donc effectivement, il y a une vingtaine de papillomavirus cancérigènes. Les plus fréquemment impliqués et qui sont responsables le plus de lésions sont le 16 et le 18. Et effectivement, les autres, après, on ne détaille pas les numéros. On les classe dans ce qu'on appelle les autres oncogènes. La différence entre ça, c'est le risque de lésion. Au cours d'une vie, quand on a un HPV-16, on est plutôt à risque cumulé d'avoir 30% de développer une lésion, alors qu'on est à 3% avec les autres oncogènes. Donc c'est pour ça que votre médecin vous a rassuré par rapport à ça. Après, on n'est pas à zéro et c'est pour ça qu'il faut une surveillance. En ce qui concerne les lésions de bas grade, ce ne sont pas des lésions précancéreuses. Ce sont des lésions bénignes qui, le plus souvent, vont être transitoires et vont régresser spontanément. Il arrive quand même dans quelques situations où il peut y avoir une progression, c'est entre 5 et 10%. Donc là encore, quand on a une lésion de bas grade, eh bien on nécessite une surveillance annuelle pour vérifier, soit ben, espérant aller vers la régression, soit bien sûr s'il y a un risque de progression, mais on s'en rendra largement compte une fois par an et à ce moment-là, on pourra prendre en charge la patiente.
Et la question que posait Julie par rapport à son fils ?
Alors, à ce jour, nous n'avons aucune donnée inquiétante sur l'infertilité. Vous savez, c'est espèce de mythe ça, ou d'idée reçue qui peut circuler. Donc il n'y a rien du tout sur les conséquences en termes de fertilité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Aujourd'hui, ce qui est important à comprendre pour les garçons, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas très clair dans l'esprit, on ne va pas vacciner les garçons que pour protéger les filles. Bien sûr, quand on augmente la couverture vaccinale, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on va augmenter la prévalence du virus, et donc petit à petit, effectivement, on va aller, comme le citait je crois que c'était M. Dabis en Australie, vers carrément une éradication des papillomavirus. Mais les garçons, on les vaccine aussi pour eux, puisqu'il y a un tiers des cancers liés aux papillomavirus qui se développent chez les hommes. Et la difficulté chez les hommes, ou chez les jeunes jeunes, c'est que nous n'avons pas de dépistage possible comme c'est possible avec le col de l'utérus, où là, on a cette possibilité de faire frottis, test HPV, et de se rendre compte à l'état précancéreux. Parce que si aujourd'hui, on n'a que 3000 cancers du col chez la femme, ça reste 3000 de trop, mais en tout cas, il n'y en a que 3000, on traite 35 000 lésions précancéreuses chaque année. Sinon, il y aurait beaucoup plus de cancers chez la femme. Chez l'homme, donc, je vous disais, il y a autour de 2000 cancers chaque année, et nous n'avons à ce jour aucune possibilité de faire un diagnostic avant le stade cancer. Donc, on va vacciner les garçons pour les protéger de tous ces cancers liés au papillomavirus.
Vous confirmez, professeur Éric Solari, on ne va pas faire un frottis de gorge pour savoir si on a attrapé
Non, malheureusement, il n'y a pas. Mais je crois que c'est l'occasion de souligner que la vaccination n'interdit pas de poursuivre ensuite le dépistage à vie. Et il y a deux outils vraiment pour se prémunir de ces cancers du col. Je parle des cancers du col là. C'est la vaccination et le dépistage systématique. C'est ce qui est arrivé à Julie, qui pour lequel la lésion a été dépistée. Pour les autres localisations, malheureusement, il n'y a pas d'outils de surveillance de même nature et aussi performant.
Un autre témoignage, c'est Estelle qui nous appelle à son tour. Bonsoir Estelle.
Bonsoir.
Vous souhaitiez témoigner parce que votre sœur a été atteinte d'un...
Alors oui, ma sœur est décédée du papilloma, un cancer de l'utérus, il y a 9 ans maintenant. Donc voilà, alors elle est entre le moment où on a diagnostiqué sa maladie et le moment de son décès, il s'est passé 6 mois. Quand on assiste à la maladie de quelqu'un, pour moi, c'est même pas une question de savoir si mes enfants vont être vaccinés. Par contre, en fait, je voulais témoigner aussi par rapport au fait qu'à l'époque, quand ma sœur était malade et que j'ai posé la question par rapport à ma fille, qui est aujourd'hui adolescente, j'ai eu plusieurs réponses où on m'a dit, bah, d'ici que votre fille soit adolescente, on aura plus de recul sur le vaccin. Une autre gynéco m'avait dit bah, « Là, par contre, quand votre fille sera adolescente, on ne devrait plus décéder du papilloma. » Et malheureusement, le constat est là, c'est que bah, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des réticences par rapport à la vaccination, alors que, mon Dieu, quand on a une solution comme ça et qu'on assiste à la maladie de quelqu'un, et non seulement à la maladie, mais... à la fin de vie de quelqu'un, quand on sait qu'il y a un vaccin qui existe, c'est même plus une question en fait. Donc moi, mes deux enfants, ma fille est vaccinée, elle a 15 ans, mon fils a 12 ans, là j'ai une ordonnance, il va bientôt se faire vacciner. Et voilà, pour tout, enfin, juste par rapport à ça, peut-être que j'aurais aussi pris le temps de la réflexion sur la vaccination si je n'avais pas été directement concernée, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on vit des choses comme ça, et surtout dans mon entourage proche, Il y a d'autres cas de papilloma ORL. Et dans le parcours de soins de ma sœur, quand j'étais avec elle, il y avait plusieurs cas, effectivement, de cancer lié au papilloma et pas que le col de l'utérus.
Merci beaucoup, Estelle, pour ce témoignage absolument essentiel. Hein. Il faut bien le dire. Professeur Solari, est-ce que c'est un cancer particulièrement agressif qui touche y compris les jeunes? Le cancer du col de l'utérus.
Oui, d'abord, c'est la première particularité, c'est que même s'il se développe à quelques dizaines d'années après l'infection elle-même, il se développe chez des femmes encore jeunes pour le cancer du col. D'autre part, la mortalité elle est d'un sur trois, donc c'est quand même considérable dans un pays qui est très armé contre le cancer.
Et c'est toujours le papillomavirus qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus.
Toujours. Et là, on parle de la France. Il y a des pays où la mortalité par cancer du col de l'utérus est considérable, et c'est très très lié aux conditions socio-économiques dans le monde. Donc c'est vraiment un virus qui fait des dégâts considérables dans le monde encore actuellement.
Et donc c'est une bonne nouvelle de savoir qu'un vaccin protège de cette façon-là.
Oui, je pense qu'il faut mettre ça...
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cancers qu'on peut prévenir par des vaccins pour l'instant.
C'est ce que j'allais vous dire. On est à 40% de cancers que l'on peut prévenir. Alors on peut prévenir en changeant son mode de vie, etc. Mais on n'a pas beaucoup de moyens d'intervention autres que la sollicitation d'un changement de mode de vie. Quand il s'agit d'un pathogène comme un virus, là, on a un moyen d'intervention. Et donc, il faut saisir cette opportunité. C'est un cancer que l'on peut éradiquer à terme. C'est ce qui est en train de se passer en Australie. Il est prévu qu'en 2034-2035, le virus aura complètement disparu, ce qui veut dire que derrière, ces générations-là ne devraient pas connaître ce cancer du col.
Professeur François Dabis, une petite question sur les inégalités, j'allais dire, en matière de vaccination. On sait que certains milieux, peut-être les milieux les plus favorisés, ont plus tendance à vacciner leurs enfants. Comment on peut expliquer ça, ces différences? Qu'est-ce qu'on a constaté déjà jusqu'à présent dans ce domaine?
Bien effectivement, beaucoup d'inégalités et je crois que la vaccination c'est vraiment anormal que ça soit comme ça inégalitaire. Peut-être parce que nos stratégies en général de promotion des moyens de prévention sont visent à l'égalité, c'est-à-dire qu'on veut donner les mêmes informations à tout le monde en même temps. Et peut-être que ça c'est pas exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'équité. L'équité, ça veut dire que pour les groupes de population qui sont les plus défavorisés, qui ont moins accès à l'information, qui ont peut-être des milieux socio-économiques défavorisés, eh bien, il faut donner plus d'informations, donner plus d'opportunités par exemple, de se faire vacciner. Et c'est ça qui va créer, au bout du compte, que tout le monde revient à peu près au même niveau. Et je pense que apporter des informations et offrir de la vaccination au milieu scolaire, c'est quand même une très belle manière d'augmenter, d'aller vers l'égalité, l'égalité des chances, finalement, puisque tous les enfants vont à l'école.
Kevin, merci professeur Dabis. Kevin nous appelle de Vienne, dans l'Isère. Bonsoir Kevin.
Bonsoir, merci de prendre ma question.
Je vous
appelais du coup pour les générations un petit peu qui ont dépassé l'âge de la vaccination. Donc c'est, j'imagine, déjà plus de 17-20 ans et pour ma part 35 ans. Du coup, je voulais savoir un petit peu ce qu'il était envisageable de faire en termes de dépistage, le type de dépistage qui permettrait de détecter les papillomavirus et éventuellement les traitements, les choses comme ça pour les personnes qui pourraient être contaminées, pour éviter éventuellement de contaminer d'autres partenaires, de choses comme ça. Voilà. C'était ma question un petit peu pour les plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éradiquer aussi à notre niveau et pour nos générations à nous ce problème-là.
Merci Kevin pour cette question, et je précise que vous êtes loin d'être le seul à vous poser ces questions. On a beaucoup de questions. On a Juliette par exemple qui nous dit « J'ai 25 ans, je ne suis pas vaccinée. Ma mère n'y était pas favorable à l'époque quand j'étais adolescente. J'ai connaissance que dans certains pays où on peut encore se faire vacciner jusqu'à 26 ans. Est-ce que je pourrais le faire en France? Est-ce que ce serait à ma charge ou remboursé ou pas ?» Docteur Marouani, vous nous avez dit tout à l'heure sur l'âge. On a passé le cap, mais sur les moyens de prévenir, comme disait Kevin, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, il y a très peu de... En fait, si vous voulez, la problématique pour la transmission, on peut déjà commencer par ça, pour la transmission du papillomavirus, c'est que l'utilisation, par exemple, de préservatifs ne protège pas du tout en totalité de cette transmission. Elle la limite autour de 70%, donc c'est pas non plus négatif. Mais il y a une transmission qui se fait aussi par les caresses, par les mains, par le contact de la peau. Donc, quelle que soit, en fait, la sexualité, d'ailleurs, que ça soit homosexuel ou hétérosexuel, et l'utilisation pas de préservatifs, on a a toujours un risque d'attraper les papillomavirus. Donc, on n'a pas de prévention sur ce plan-là. Après, pour les hommes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de dépistage pour aucun des sites actuels qui peuvent atteindre les hommes. Et en ce qui concerne les femmes, on l'a évoqué, c'est le dépistage du col à partir de 25 ans. En ce qui concerne la vaccination, donc une fois qu'on a dépassé l'âge, on rappelle qu'en France, donc c'est 11 ans, 14 ans pour les garçons et les filles, et en rattrapage jusqu'à 19 ans, si ça n'a pas été fait avant, avec, pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, on peut aller jusqu'à 26 ans, effectivement. Pour les patients qui souhaiteraient faire une vaccination après, le vaccin a l'autorisation de mise sur le marché, y compris au-delà de 20 ans. Effectivement, la différence, c'est qu'il n'y a pas de remboursement. Donc là, votre interlocutrice l'a posé la question du remboursement. Donc effectivement, au-delà de 20 ans chez la femme, il n'y a pas de prise en charge par la Sécurité sociale. Mais la patiente peut le faire. Il faut juste savoir que plus on avance en âge, et en fait, moins on a un taux d'efficacité du vaccin, mais qui n'est pas à zéro. Donc après, c'est une discussion qu'on peut avoir au cas par cas avec les patients.
Est-ce qu'on peut juste dire combien coûte ce vaccin ? Parce que la question se pose quand on n'est pas remboursé. Professeur Solari, peut-être vous avez les informations, c'est,
oui, oui,
c'est pas donné.
Oui, c'est autour de 100 euros, c'est entre 95 et 110 euros selon le type de vaccin. Donc c'est effectivement un coût certain. Et donc le fait que ça soit la mesure qui est annoncée d'une prise en charge directe du vaccin est extrêmement importante. Dans cette perspective d'équité qui a été évoquée tout à l'heure.
Bien sûr. Une autre question qui nous arrive sur notre site, c'est Sophie qui dit « Notre fils de 14 ans a une première dose de vaccin. J'ai lu à plusieurs reprises que l'OMS recommande une seule dose. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il faut faire un rappel ? Est-ce qu'une dose suffit ? Docteur Marouani, vous avez des informations à ce sujet ?
Alors, aujourd'hui, il y a une étude qui a été publiée, qui a été faite en Inde, donc dans des pays plus défavorisés que la France. Et donc, ils ont étudié effectivement l'efficacité du vaccin qui avait eu une, deux ou trois doses. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, avec une dose, on pouvait déjà avoir une efficacité qui était très correcte. Donc, les recommandations de l'OMS vont surtout concerner aujourd'hui les pays en voie de développement ou qui n'ont pas toujours accès de pouvoir avoir plusieurs doses. Et donc, il vaut mieux vacciner plus de personnes avec une dose que moins avec deux ou trois doses. Après, c'est une étude, on a besoin d'avoir des preuves supplémentaires. Donc aujourd'hui, en France, il n'y a pas de changement de recommandation sur le nombre de doses. Par contre, peut-être qu'à l'avenir, s'il y a de nouvelles publications, de nouvelles études qui sont faites, qui montrent qu'il y a une équivalence, sûrement que la stratégie sera revue. Pour l'instant, ce n'est pas le cas en France.
Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, le président Macron a souhaité élargir la vaccination en milieu scolaire, on l'a dit. Il se trouve que nous sommes en ligne avec Safia Guerrechi, qui représente le syndicat national des infirmiers et infirmières conseillères de santé, qui intervient en milieu scolaire. Bonsoir, madame.
Oui, bonsoir.
Vous avez réagi, votre syndicat, aux annonces du président de la République, et en vous demandant si l'école était le lieu adéquat. J'aimerais savoir pour quelles raisons.
Alors, c'est simple à expliquer. Bien sûr, en termes de santé publique, quand on a une population captive comme les enfants à l'éducation nationale, on pense, et à juste titre, qu'en ayant une stratégie d'information et de promotion de la santé, on va améliorer la santé de la population. Pour ça, pour nous, ça ne pose aucun problème. Et les infirmières participent très largement à la promotion de la vaccination et à la mise en place de parcours éducatifs de santé pour améliorer. Mais dans toutes les politiques de santé publique qui ne se limite pas malheureusement au papillomavirus mais à bien d'autres domaines dans le terme de santé et de risque pour la population. Mais il se trouve qu'on est 7700 infirmières devant élèves pour assumer des missions très larges et notamment aussi des missions d'accueil et d'écoute qui est notre principale mission par rapport aux jeunes et
aux
malades.
Vous n'êtes pas assez nombreuses pour dire les choses
on
simplement.
On n'est pas assez nombreuses mais en plus quand on a mis en place des politiques de vaccination que ce soit pour le H1N1 ou encore pour le Covid, on se rend compte que les usagers, les familles, c'est pas dans l'école qu'ils souhaitent faire vacciner leur enfant. Et c'est pour ça qu'on s'interroge en se demandant si l'école est le lieu adéquat, parce qu'il y a une ouverture et un élargissement des capacités vaccinales d'autres professions de santé qui sont les partenaires de l'école et qui sont les professionnels de santé choisis par la famille. Donc pour nous, on doit promouvoir la vaccination et améliorer les connaissances des élèves et de la communauté scolaire sur la vaccination, mais les acteurs du soin qui sont les professionnels de santé de confiance, c'est eux qui doivent réaliser l'acte vaccinal. Pour nous, il y a une confusion entre le rôle de l'école et en tout cas, on va nous mettre à la rentrée prochaine devant l'incapacité de réaliser une mission supplémentaire puisqu'on sait déjà qu'on sera à moyen constant à la rentrée prochaine.
Merci Safia Guérechi d'être intervenue sur l'antenne de France Inter. Une réaction, professeur François Dabis ?
Oui, moi je pense que d'abord je partage une partie du constat de cette personne, c'est-à-dire qu'effectivement la médecine scolaire et la santé scolaire en général sont des parents pauvres dans le système éducatif et cela nous manque terriblement en matière de politique de santé publique parce que imaginez si on avait beaucoup plus de moyens tout ce que l'on pourrait faire auprès de ce public jeune qu'on peut qualifier de captif effectivement, mais surtout à un âge où énormément de messages peuvent être passés. Donc de ce point de vue-là, je suis bien sûr d'accord. Et je pense qu'il faut saisir l'opportunité de cette nouvelle mission qui est proposée pour augmenter ou demander en tout cas l'augmentation des moyens de la santé scolaire. Je dis aussi qu'il n'y aura pas un seul canal qui sera privilégié pour vacciner et qu'effectivement il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs de la vaccination. On a indiqué, le président de la République l'a dit, que les pharmaciens, les infirmiers seraient également engagés dans cette voie. Donc je pense qu'effectivement tout le milieu scolaire ne va être qu'un effecteur parmi d'autres d'une politique beaucoup plus globale.
Et l'un excluant, pas l'autre évidemment. Bruno est dans le Cantal. Bonsoir Bruno.
Bonsoir, merci de prendre ma question. C'est une réflexion, c'est à force de faire tous ces vaccins préventifs, alors je ne suis pas contre les vaccins, qu'on s'entende bien, mais je me dis qu'à force de faire tous ces vaccins préventifs, on sort du Covid, de la grippe, etc. Est-ce qu'à force, on n'affaiblit pas l'organisme et le corps pour se battre contre tous ces microbes ambiants? Bon, le papillomavirus, je sais que c'est particulier, c'est par rapport au cancer, mais quand même, est-ce qu'on n'affaiblit pas quand même l'organisme?
Merci Bruno d'avoir posé cette question. Le professeur Solari va vous répondre.
Oui, je comprends bien qu'on puisse s'interroger de cette façon. En même temps, tout au long de notre vie, on est confronté à des dizaines et des centaines d'agents pathogènes, de virus, de bactéries, de champignons, de tas de choses. Et notre système immunitaire est là pour nous défendre. Donc là, on le sollicite simplement, de façon un peu ciblée, pour qu'il soit armé, pour nous protéger contre quelques agents qui sont particulièrement dangereux pour notre corps. Mais notre système immunitaire a des capacités considérables. Et donc, le fait de le stimuler régulièrement, regardez, on se vaccine contre la grippe tous les ans, le système immunitaire fait ça très bien, il s'adapte à chaque fois. Et non, il n'y a aucun danger pour l'organisme à le stimuler de cette façon.
On a des questions qui nous arrivent sur franceinter.fr concernant les modes de contamination par le papillomavirus. Et je voudrais que vous, peut-être, que vous y reveniez un instant, Julia, docteur Julia Marouani. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais là, par exemple, il y a Catherine qui nous demande est-ce que, par exemple, une femme lesbienne qui n'a jamais eu de rapport avec un homme peut attraper ce papillomavirus? Comment ça se transmet très précisément? Tout à l'heure, vous avez évoqué les caresses. Et c'est vrai que certains vont se dire, mais est-ce qu'on... Simplement en embrassant quelqu'un, on peut choper ce virus. Est-ce que vous pourriez nous redétailler tout ça?
Alors non, c'est pas par le baiser que ça peut être attrapé. Par contre, c'est vrai que ça peut être ce qu'on appelle manuporté. Donc s'il y a des caresses avec les mains, que ça soit pour l'homme ou pour la femme, et effectivement entre deux femmes, la transmission est totalement possible et fréquente d'ailleurs. Hein, il y a autour de 20% des femmes qui n'ont eu des rapports qu'avec des femmes qui sont porteuses de papillomavirus, donc sans avoir jamais eu de partenaire masculin. Donc c'est vraiment important de penser que c'est l'activité sexuelle qui va engendrer la transmission du papillomavirus. C'est-à-dire qu'avant le début de toute activité sexuelle, il n'y a pas de papillomavirus. On ne l'attrape pas d'une autre façon. Ce n'est pas un virus transmis autrement, comme je donne souvent cet exemple que disent les patientes, ou à la piscine, ou sur les toilettes, ou autre chose. C'est vraiment l'activité sexuelle. Après, il n'y a pas que la pénétration qui entraîne la transmission de l'HPV. C'est donc le contact des parties génitales les unes contre les autres. Aussi, la transmission se fait en orogénital. Hein, c'est pour ça qu'il y a aussi des papillomavirus au niveau de la gorge. Mais en tout cas, on est toujours dans un contexte de sexualité.
HPV étant l'abréviation anglaise, hein, je crois, de ce virus. Je le précise parce que certains se posent la question. On va prendre un dernier appel au standard de France Inter. C'est Clément qui est en ligne. Merci Clément de nous avoir appelé.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question un peu plus générale. Je suis désolé, mais que je trouve vraiment importante en ces temps un peu rudes pour la science, où justement, on est à un point de l'humanité où on a une science qui est en théorie toute puissante, mais avec des infos de partout qu'on peut vérifier, où on peut presque personnellement appeler les scientifiques. Et on a pourtant de plus en plus de gens qui remettent en question cette science, dont la médecine, et encore plus particulièrement les vaccins, qui sont pour moi l'une des plus belles inventions que l'humanité a pu faire. Et je me demande quand est-ce que les pouvoirs publics vont prendre la pleine mesure de ce problème qui est de remettre en question ces avancées importantes qui risquent de plonger. Je vais pas rentrer dans des
considérations
un peu trop graves, mais qui peuvent vraiment poser de gros problèmes en termes de santé publique, comme on l'a vu dans certains pays où des maladies qui étaient soi-disant éteintes sont revenues.
Merci beaucoup Clément pour cette question. Et j'ajoute la question de Fabienne qui nous dit « J'ai fait vacciner mes deux fils l'année dernière. C'est nous, les parents, qui avons dû demander à notre médecin, qui pourtant voit les enfants régulièrement. Il était très surpris de notre demande. Une formation des généralistes semble nécessaire au-delà du grand public. Professeur Solari, vous êtes d'accord avec ça ?»
Oui, je pense que Clément touche du doigt une question effectivement extrêmement importante, qui est la communication entre les médecins, les scientifiques et le citoyen. C'est une question à laquelle on accorde de plus en plus d'importance. Je pense que le Covid a effectivement mis le doigt sur ce sujet de façon très aiguë. Il faut absolument qu'on communique. Ce que vous faites ce soir est absolument parfait pour ça. Il faut qu'on arrive à s'expliquer. Dans le rejet du vaccin dont on a beaucoup parlé ce soir, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et donc cette inquiétude, elle s'explique par le fait que la communication est insuffisante, qu'on n'explique pas assez. Et je pense que c'est par l'explication et le dialogue qu'on peut avancer.
Et en répondant à toutes les questions, François Dabis, il n'y a pas de mauvaises questions dans ce domaine-là?
Non, il n'y a pas de mauvaises questions. Et moi, je ne peux qu'inciter les auditeurs, lorsqu'ils se posent des questions, à aller d'abord en priorité sur les sites officiels. Le ministère de la Santé, l'Institut National du Cancer, ce ne sont pas nécessairement les sites qui vont sortir en premier lorsqu'on fait une recherche sur Internet. Et donc, on peut être influencé par des choses qui ne sont absolument pas validées. Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur les sites officiels, vous avez de l'information scientifique qui a été validée. Et lorsqu'il y a des incertitudes, elles seront marquées. Voilà, c'est ce qu'il faut bien sûr recommander à tout le monde.
Alors, je voudrais peut-être, pour terminer, vous soumettre ce message de Valérie, qui nous a écrit sur franceinter.fr. Ma fille a 25 ans, elle était vaccinée vers 14-15 ans. Notre médecin prenait déjà le fait de vacciner filles et garçons à l'époque. L'argument qui avait terminé de nous convaincre était que s'il y avait un tel vaccin contre le cancer du sein, tout le monde se ferait vacciner. Voilà, c'est le mot de la fin. Cette émission est terminée. Merci à tous nos invités d'avoir répondu aux questions que vous vous posez. Il est quasiment 20h sur l'antenne de France Inter.